Rébène.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Des ribines au cœur du son cette semaine. On explore les chemins de traverse d'un artiste sonore finistérien. Il s'appelle Didier Talek et il nous fait découvrir son univers, son vaste univers.
En fait, moi je suis principalement un musicien, je suis violoniste, compositeur et souvent je rajoute un petit peu artiste multimédia parce que j'ai beaucoup travaillé aussi avec la vidéo quoi en fait, ce qui fait que je travaille sur le son mais j'ai travaillé aussi sur l'image, donc sur plusieurs médias. Bon, maintenant ça reste quand même le son et la vidéo.
Didier Talek est un observateur auditif attentif de son environnement. Il sait approprier cet environnement petit à petit, mais toujours dans une démarche d'artiste et de musicien qui ne néglige aucun son.
J'aime pas être vraiment confondu avec les audio-naturalistes, non pas que j'aime pas du tout leur travail, au contraire, vraiment je le trouve excellent, mais je pars du principe que j'enregistre tout. Si j'enregistre par exemple des oiseaux, s'il y a une voiture qui passe par derrière, elle est enregistrée, j'enregistre vraiment en fait mes paysages sonores, les paysages sonores, tels qu'on peut les écouter. Si je veux aller dans un paysage sonore vierge un petit peu de bruit, de voiture, de civilisation, je vais là où il n'y a pas de voiture, par exemple à l'île de Sein. Mais autrement, je conserve toujours, et dans le mixage, et dans le mastering, tous les sons, en fin de compte. Donc il n'y aura pas on appelle ça des roll-off, des cut-off, toutes les fréquences sont gardées, quoi, en fait. C'est venu vraiment petit à petit, c'est-à-dire il y a à peu près 5 ou 6 ans que j'ai démarré à enregistrer sérieusement les paysages sonores et on se prend au jeu. C'est vrai que à la base je suis musicien, comme je disais, plutôt violoniste, compositeur, mais d'écouter un petit peu toute la richesse des différents paysages sonores, ça amène à une autre réflexion, et puis des moyens sonores différents, une matière sonore qui enrichit son propre langage, quoi.
Mais c'est de la musique, tu considères que c'est de la musique ce que tu fais?
Complètement, ouais. Ce ne sont pas des documentaires, je ne suis pas non plus audio-naturaliste. Souvent, les prises de son, elles sont mixées entre elles. Donc, il y a vraiment des compositions, on pourrait peut-être appeler ça des compositions de field recording, compositions de paysages sonores, quoi. Il n'y a pas uniquement que des sons naturels aussi qui sont enregistrés, comme Wired Wiring, qui doit sortir en vinyle à la rentrée, qui est composé uniquement avec des sons d'usine. En fait, c'était une demande de l'usine Michelin, de Vannes, en fin de compte, pour ses 40 ans d'ouverture. Donc c'était une exposition pas uniquement sonore, il y avait aussi un vidéaste, un photographe. Et on m'a demandé d'enregistrer l'ambiance de différentes ambiances de l'usine. Ça n'a pas été facile dans cette usine. C'était l'été 2014. Il faisait très très chaud. Il y avait eu beaucoup d'accidents du travail. L'ambiance était très tendue. Il y a des risques d'accident. Donc j'étais accompagné, comme je dis, toujours un petit peu d'un garde du corps pour éviter que les câbles, les micros se prennent dans toute la chaîne de tréfilage. C'est une usine de pneus, évidemment, Michelin, mais qui s'occupe uniquement de ce qu'il y a de métallique dans le pneu, quoi, en fait. Donc, c'est des énormes bobines de câbles métalliques qui arrivent et puis que ça ressort de plus en plus fin, quoi, voilà. Donc, j'ai enregistré ces différentes séquences. Donc, à la base, c'était beaucoup plus un documentaire un petit peu pour Michelin. Puis après, la partie artistique est venue, c'est-à-dire que j'ai... pas simplement monter, mais mixer les différents sons pour en faire une composition musicale. Ensuite, atomiser les sons dans certaines parties de la composition avec ce qu'on appelle la synthèse granulaire, quoi, c'est-à-dire de vraiment aller dans l'atome de son. Donc il y a vraiment tout un travail de composition, de recomposition, musicale.
Didier Talek vit à Quimper et aussi à Pinmar. Il puise donc ses matériaux sonores dans le Finistère avant tout. Et voici comment l'artiste choisit le paysage qu'il va enregistrer.
Quand on fait du field recording, on est un petit peu chasseur de sons. C'est-à-dire, la plupart du temps, je me balade avec un casque sur les oreilles, un micro très directif, un micro canon, et je pars à la recherche de différents sons, quoi. Donc, des fois, on rentre bredouille, il n'y a rien d'intéressant. D'autres fois, on peut tomber sur des choses vraiment intéressantes. J'ai le souvenir, en fait... Il y a quelques années, d'être vers 4-5 heures du matin à la sortie des chalutiers, donc au port du Guilvinec, sur une plage à 200-300 mètres, et de rester enregistrer le drone d'un chalutier pendant 3 quarts d'heure en restant en place. Donc voilà, on tombe, le son était superbe, il y avait une réverbération naturelle qui était complètement géniale. Donc là, voilà, on ramène à la maison vraiment du son, quelque chose d'intéressant, mais c'est pas toujours le cas, quoi.
Parfois, tu vas très loin pour enregistrer des paysages sonores.
Non, jamais très très loin. Il y a un petit peu, pour les tempêtes, il y a toujours le spot de Saint-Guénolé. C'est peut-être le plus beau spot qui existe. Le plus difficile, c'est d'enregistrer, par exemple, le vent. Donc, il y a des endroits vraiment qu'on se choisit. Là, je pense sortir certainement un album sur les sons de vent de l'île de Sein. J'aime bien l'île de Sein. Voilà. Autrement, évidemment, dès que je voyage, j'amène avec moi un petit enregistreur. Les dernières prises de son que j'ai faites, par exemple, c'était à Prague, mais c'est pas vraiment loin. Mais j'ai la photographie quand même sonore de cette ville, quoi.
Finalement, c'est exactement comme la démarche d'un photographe, on pourrait le dire.
Oui, voilà, exactement. Quand on écoute un petit peu les différents paysages sonores de différentes villes, il y a des signatures sonores, quoi. Prague ne va pas sonner de la même manière que Londres. Londres ne va pas sonner de la même manière que Paris, quoi, en fait. Donc là aussi, oui, il y a beaucoup de paysages sonores que j'ai enregistrés dans des capitales, mais qui n'ont pas été encore forcément utilisés.
Quand tu sors un album, comme tu dis, sur l'île de Sein, par exemple, ça prend quelle forme ? C'est un CD ou... Parce que là, tu vas refaire un vinyle, par exemple. Qu'est-ce que tu choisis comme support ?
Donc là, c'est en fonction un petit peu des compositions. C'est vrai que Wired Drawing, c'est des sons de machines, des sons d'usine. Ça fait beaucoup de bruit. Il n'y aura pas de problème de bruit de souffle. Tandis que par contre, les compositions qui seront enregistrées à l'île de Sein, le support sera certainement plutôt le CD, voire le SACD, quoi, en fait, quoi.
C'est toujours une œuvre, un lieu. C'est jamais, tu mixes pas plusieurs lieux.
C'est vrai que ça reste toujours quand même plutôt sur un lieu. J'ai pas encore mélangé différents lieux, mais ça pourrait se faire, quoi, en fait, quoi.
Et le matériel, qu'est-ce que tu utilises ?
Matériel, alors, en fin de compte, pas énormément de matériel très onéreux, contrairement à certains compositeurs preneurs de son de field recording. J'utilise par exemple, bon, évidemment, il y a tout un choix de différents micros, des hydrophones aussi, mais pas forcément des micros très coûteux qui sont enfermés dans des cages, hein, en fer.
Alors l'hydrophone, il faut peut-être préciser ce que c'est pour les gens qui ne savent pas.
Hydrophone, donc c'est des micros sous-marins, quoi, en fait. Hein. Donc j'utilise beaucoup de ces micros-là pour enregistrer ce qui se passe sous l'eau. Mais très souvent, bon, on habite ici dans un pays où il y a beaucoup de vent et on se rend compte que, tout simplement, en ayant placé un petit enregistreur, le Zoom H2N, c'est un enregistreur qui coûte 150 euros, à côté du gros matériel, c'est des fois cette prise de son qui va être conservée, vu que le matériel plus onéreux, bon, enregistrer beaucoup plus des fois de défauts au niveau du son. Non, c'est beaucoup plus tout se fait dans le placement, quoi, des micros. C'est pas j'embarque le micro le plus cher et je le place n'importe où. C'est vraiment, bon, un choix de sonore fait au casque. Chaque micro a son entité sonore aussi. C'est beaucoup plus comme ça que je fonctionne, quoi, en fait. Il y a toute une palette de micros. C'est exactement ça. Donc, comme je disais, pas forcément très onéreux, mais chaque micro a son son, quoi, en fait. Au niveau enregistreur, donc j'ai un Edirol R44 qui est pas mal, bon, qu'on peut enregistrer quatre pistes en même temps. Souvent c'est enregistré, ce qu'on peut dire aussi dans ma manière de travailler, c'est j'enregistre jamais un son avec un seul micro. Par exemple, pour enregistrer par exemple le ressac, je vais prendre, bon, un micro canon, un couple AB, c'est-à-dire la stéréo, mais je vais utiliser un hydrophone que je vais mettre dans le sable en dessous les vagues. Donc ça fera un petit peu comme s'il y avait une oreille qui était placée en fait en dessous les vagues. J'utilise aussi des choses qui sont pas très très chères, comme des micros de contact, par exemple pour enregistrer les vibrations des ponts, des choses comme ça. Donc à l'arrivée, c'est un petit peu toutes ces différentes sources sonores de différents micros qui vont faire le son, un son, quoi, en fait. Mais à la base, c'est vrai qu'il y a successivement, bon, plusieurs prises de son, donc c'est du multipiste, quoi, quasiment, qui est fait, quoi.
Et quand tu fais tu proposes de temps en temps une formation, des formations de field recording, quel est le programme ?
Ces histoires de stage du paysage sonore, ça a démarré, bon, donc, sur Tréguin, là où je bosse, à la MJC de Tréguin, à l'école de musique, et les stages sont enregistrés par Musique et Danse en Finistère. Je me suis pris au jeu, donc la première année, c'était un petit peu, bon, ça a été fait comme ça, un petit peu sur le tas. Ensuite, bon, bah, vraiment, il y a une approche, donc, de la théorie et de la pratique de la prise de son. Ensuite, on a rajouté, donc, la composition des paysages sonores. C'est-à-dire vraiment les stagiaires font eux-mêmes donc une composition avec les sons donc qu'ils ont récoltés. Et là, pour le prochain stage donc aura lieu sur Brest. Là, il y aura donc avec ma collègue Noémie Spranger, il y aura une partie donc diffusion aussi du son qui aura lieu. Quoi. Ça sera pour le mois de mars 2018 et la restitution sera faite pendant le festival Électrocution.
Noémie Spranger est une chercheuse et artiste. Elle, sa spécialité, c'est l'acousmatique ou encore la musique composée pour être écoutée sur haut-parleur. C'est le GRM, le groupe de recherche musicale de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, qui a lancé ce concept. Vous l'aurez compris, Didier s'intéresse à tout l'univers de la création sonore et il aime travailler en collaboration, comme il l'a fait par exemple en ce mois de mai 2017.
Donc c'est une collaboration donc avec Pierre Charrier. En fait, Pierre Charrier donc est un designer. Il construit donc des surfaces sonores en fait qui ressemblerait à des demi-planches à voile, on va dire, planches de surf bombées donc en érable très très belles, sur lequel donc il met des vibreurs acoustiques donc qui amplifient le son. Donc on a des nouveaux haut-parleurs. Donc là j'ai eu la chance en fait d'exposer au Grand Palais, donc au Salon Révélation. Donc on pouvait entendre les paysages sonores. Donc Pierre avait choisi 4 paysages sonores, 2 paysages sonores de tempête qui ont été enregistrés donc à Saint-Guénolé, quoi, à Pamard, 2 paysages plus calmes, un ressac, j'en parlais tout à l'heure, donc qui a été enregistré pareil sur Pamard, et des sons d'oiseaux qui ont été enregistrés dans la Ria de la Veine, quoi, à Pont-Aven, hein, tout simplement.
Ah, c'est bien d'écouter quelqu'un qui possède une vaste culture du son. Les pistes sonores, Didier Talek peut en suivre sans a priori, juste pour le goût de l'aventure artistique, et pourquoi pas aussi un jour celle du bruitisme.
Bruitisme, bah c'est Luigi Russolo, quoi, un petit peu. Donc les différents bruitistes, c'est au début du siècle, des gens qui ont eu l'idée, bon, en fait, qui ont inventé des machines, qui ont dit, bon, bah voilà, de toute façon, le bruit, avec du bruit, on peut faire des œuvres d'art, on peut faire des compositions. Et c'est vrai que c'est des gens, bon, qui sont un petit peu des précurseurs de tout ce qui se fait, bon, maintenant, à l'heure actuelle, quoi.
C'était l'enregistrement de bruit réel ou c'était la création de bruit ?
Création de bruit. Création de bruit. Donc il y a le manifeste hein, des futuristes bruitistes finalement, qu'on considère que le bruit c'est du son, on peut en faire vraiment de la musique, mais ils ont construit donc différents instruments de musique bruitistes en fait, donc différentes machines, et c'est avec ça donc qu'ils ont fait leur propre composition quoi.
Et ça c'est pas une piste qui te tente ?
Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, bon, c'est plus du domaine un petit peu de la lutherie. Donc, par contre, en collaboration, oui, pourquoi pas.
Cette ouverture large à tous les sons, Didier l'applique aussi à un autre média qu'il travaille, son jardin. Ses jardins même, devrait-on dire, puisqu'il en a deux, à Quimper et à Pinmar.
Le jardin, c'est encore une histoire à part entière. Au début, bon, le jardin quand même a été créé, le travail a été fait il y a déjà quand même une vingtaine d'années. Quoi. En fait, au début, on a une démarche justement plutôt audio-naturaliste. On se dit, ah là là, bon, il y a le son des voitures à côté, j'aimerais bien faire un jardin dans un endroit qui soit pas bon en centre-ville. On enrage un petit peu, c'était ce que je me disais bon, il y a 20 ans, que j'aurais préféré faire peut-être un jardin dans un endroit un petit peu plus calme. Puis après, au niveau de la réflexion, on se dit, bah voilà, non, ces sons-là, ils sont là, ils existent. Il y a le son bon, des voitures, il y a le son des gens, etc. etc. Et donc, voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, au niveau de ma démarche, bon, tous les différents sons, le son d'un jardin, c'est pas uniquement des sons naturels, c'est aussi l'environnement qui est à côté. Donc si le jardin se trouve, comme c'est le cas ici, quasiment dans le centre-ville de Quimper, évidemment, bah, il y aura des sons de voitures pendant la journée, et ça sera un petit peu plus calme pendant la nuit.
Tu n'as pas travaillé spécialement sur les sons que rendent les arbres ou les plantes que tu as mises ? T'as pas étudié spécialement cet aspect-là ?
Pas encore, c'est une piste de travail. C'est vrai que souvent on me dit, tiens Didier, ça serait bien que tu fasses une installation sonore donc, dans ton jardin. C'est un petit peu un but de faire une installation un petit peu pérenne, quoi, en fait. C'est un petit peu difficile au niveau matériel, c'est-à-dire faire des installations qui durent une journée ou deux. Ça, je l'avais fait par exemple au Vallon Saint-Laurent avec un hommage sur Max Neuhaus, mais voilà, c'était une journée, on est tributaire aussi, bon, quand même du climat, faut pas qu'il pleuve de trop. Donc c'est un petit peu, c'est encore un rêve en fait, quelque part, mais je pense que d'ici quelques années, ça sera réalisé.
Alors, qu'est-ce que tu penses du rapport au son de notre société ? Alors, c'est une vaste question, mais j'aimerais vraiment avoir ton point de vue.
Bah, moi, je pense que on prend plus le temps d'écouter le son. Souvent, je me rends compte, bon, de toute façon, qu'on vit dans une société où il y a uniquement l'image. Et le son, bon, c'est un petit peu le parent pauvre, quoi. C'est vrai que beaucoup moins de gens, de toute façon, qui sont cultivés déjà au niveau de la musique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la musique contemporaine, par exemple. Alors qu'on trouvera beaucoup plus de gens qui s'intéressent à l'art contemporain ou la danse contemporaine. Donc, c'est un petit peu le parent pauvre, quoi. Donc, beaucoup de gens, encore maintenant, je pense, quand on leur parle de paysage sonore, vont y voir un intérêt au niveau documentaire, mais pensent pas forcément qu'on puisse composer bon, avec ces sons-là, quoi.
Le format de l'émission ne nous permet pas d'écouter en entier les paysages sonores de Didier Talek. On s'en excuse auprès de lui. Mais si vous voulez les entendre et même vous plonger dedans complètement, rendez-vous sur le site internet de la radio où vous retrouverez tous les liens nécessaires.